Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'Académie MEDEF sur le thème aujourd'hui, le lobbying européen, levier fondamental de toute stratégie entrepreneuriale. Pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-France van der Wolk, directrice du pôle affaires européennes, à qui je vais laisser la parole, qui sera accompagnée de son équipe. Avant de lui laisser la parole, je vous invite à garder vos micros coupés pour le bon déroulement du webinaire et à poser vos questions sur le chat de façon à ce que les équipes puissent y répondre en direct. Merci à tous. Marie-France, c'est à toi.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, toute l'équipe est branchée puisque comme vous le savez, la dernière fois, et je vais remettre juste pour qu'on s'en souvienne si ça veut bien fonctionner, voilà. La dernière fois, on avait fait l'Europe, comment ça fonctionne de manière assez globale avec le rôle de l'Union européenne, le périmètre des compétences, les institutions. Là, on avait zoomé sur quelques-unes, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission et le Parlement. Et on s'était arrêté, alors juste pour une petite piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient pas là, donc on avait Marie-Christine Vacarezza et Margot qui m'avaient accompagnée dans cet exercice de les institutions européennes. Et on a un bon exemple que vous avez dû avoir en plus dans les slides, mais qui est un bon résumé de ce qu'on appelle le triangle institutionnel et qui résume un peu le jeu de rôle de chacun et chacune à Bruxelles. On s'était surtout arrêté sur ce slide-là, et là, je suis sûre que ça vous aviez pris peur juste avant qu'on raccroche. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était que maintenant que vous savez à peu près ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire les intitulés comme le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. Vous aviez à peu près vu comment ça fonctionnait, puisqu'on était revenu sur le fait que la Commission européenne produisait, était la seule à produire des lois, mais qu'après, il y avait ces deux organes, Parlement européen et Conseil, qui justement travaillaient dessus. Donc ça, vous l'avez, une fois vous avez bien ça en tête, vous allez voir ce slide, une fois qu'on va passer aujourd'hui, normalement, on va juste être, mais oui, c'est bien sûr, c'est évident, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'espère. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on aura loupé un petit truc. Donc, la dernière fois, nous avions eu le concours de Marie-Christine et de Margot particulièrement. Et cette fois, on aura le concours de Pauline et de Anne Vaucher, qui est également, en effet, dans le pôle affaires européennes grâce à son expertise sociale, mais qui est rattachée fonctionnellement à ce pôle, puisqu'elle dépend du pôle social. Voilà, mais elle aura l'occasion peut-être d'en parler, puisque justement, son approche va amener pas mal d'années d'expertise sur le lobbying et sous un angle qu'on connaît peut-être moins. Donc, si on revient par rapport à qu'est-ce que le lobbying aujourd'hui, on a essayé de vous faire un petit clin d'œil que vous avez peut-être déjà vu circuler, parce qu'en général, c'est souvent le petit clin d'œil que les lobbyistes se font pour se remonter le moral, ou pas d'ailleurs. Quand mes amis leur disent que je suis lobbyiste, qu'ils pensent, donc là, ils me voient toujours dans un cocktail, pas plus tard qu'hier soir, dans un cocktail avec l'ambassadeur. Donc, ils ont peut-être pas totalement faux. Ça fait partie du job. Mais heureusement, c'est pas que. Moi, mes parents, après plusieurs années, je pense qu'ils ont toujours pas compris. Je pense que le point d'interrogation est bien positionné. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, la société, elle, véhicule une image pas très positive et on peut pas franchement dire que les derniers scandales qui a eu lieu enlèvent cette image et est prête à l'enlever. Par rapport à qui on est et sur quoi on se bat, et vous allez le voir, c'est un peu l'objet aujourd'hui, on se bat tous pour quelque chose, mais pas toujours pour la même chose. Donc, quand vous êtes face à face avec vos contradicteurs, ils vous voient un peu comme le démon incarné. Et donc, automatiquement, c'est toujours un peu plus compliqué. Et surtout, on y arrivera, mais le respect doit rester quand même la clé malgré nos contradictions et le fait qu'on ne soit pas d'accord. Ce que moi, je pense faire, ce que tous les lobbyistes espèrent faire, c'est bien évidemment changer le monde, être au cœur du schéma décisionnel européen. Mais il y a une réalité qui nous rattrape et cette réalité, c'est qu'il y a beaucoup de textes. D'ailleurs, vous savez, le MEDEF a fait une étude récemment pour demander à Confrontation Europe de screener un peu ces dernières années tous les textes qu'il y a eu. Et clairement, la photo qui est là avec cette pile de dossiers, ça montre bien quand même notre réalité. Voilà, petit clin d'œil juste pour vous dire que quand on vous demande qu'est-ce qu'un lobbyiste, de toute façon, c'est pas simple et tout le monde y voit un peu sa propre image. Plus sérieusement, Il y a une définition courte qui a toujours été véhiculée et que tout le monde peut considérer comme bonne, hein. C'est quand vous faites le petit Larousse ou autre, c'est action d'influence auprès des pouvoirs publics. Mais du coup, quand on dit ça, on limite gravement l'objet à une seule cible, qui est les pouvoirs publics. Et or, aujourd'hui, ça a peut-être été à un moment donné une réalité, mais aujourd'hui, clairement, l'évolution a montré que le lobbying s'était développé largement et les acteurs qui en font aussi. Ce qui a amené du coup un élargissement total des cibles et de c'est quoi le lobbying et comment on le fait. Et surtout, ça ne cible pas que les pouvoirs publics. La réalité, en tout cas à Bruxelles, on pourra y revenir avec nos collègues de la DAP pour voir un peu la perception de leur lobbying, eux, côté Paris ou dans d'autres pays, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Mais la réalité, c'est que c'est un rouage nécessaire à la politique européenne. Clairement, c'est un débat, c'est une contribution au débat démocratique. Donc, dans le dialogue et dans faire émerger des positions, c'est fondamental. Et on peut quand même admettre que sur 100 décideurs, il y en a 80 qui sont convaincus. Allez, peut-être pessimiste en disant 80, on va peut-être dire 80, 85, qui sont convaincus que de toute façon, le lobbying est quelque chose qui apporte et qui apporte de l'expertise tant économique que technique. Voilà. Donc ça, c'était juste rapidement des petits, un petit rappel par rapport à ça. Petit clin d'œil que d'ailleurs souvent on nous met, et je crois que c'est Pauline là qui a eu l'idée, hein. Pauline, si tu veux en dire deux mots, par rapport à la petite différence lobbying versus plaidoyer.
Oui, en effet, donc souvent on oppose les deux, alors qu'au final, c'est des actions d'influence qui sont similaires dans leur approche, dans leur volonté d'influencer les décideurs publics, sachant que dans le plaidoyer, on peut quand même souligner qu'il y a un investissement émotionnel qu'il n'y a pas dans le lobbying, puisque le lobbying se veut effectivement beaucoup plus concret et factuel. Donc on présente des faits pour justement faire remonter des retours du terrain et ensuite influencer la politique qui ne prend pas forcément en compte tous ces exemples concrets que, par exemple, les industries peuvent amener, alors que plaidoyer va vraiment plutôt s'appuyer en premier lieu sur une mobilisation massive de la société civile par le biais justement de ressorts émotionnels pour ensuite apporter une influence auprès des décideurs.
Je pense que c'est important de faire un peu la différence parce qu'il y a quelques temps à Bruxelles, je pense que tout le monde de l'équipe peut en témoigner, il y a ce côté un peu les ONG sauvent la planète font un plaidoyer et les mauvaises entreprises, elles font du lobbying. Donc je pense qu'il va falloir, enfin en tout cas en ce moment, on essaie justement, et ça se voit hein, dans beaucoup de postures de grandes entreprises, de fédérations, d'essayer justement de se rapprocher un peu plus, mais on y viendra sur le contenu et l'objectif poursuivi, de se rapprocher plus justement d'être perçu comme faisant un plaidoyer pour quelque chose plutôt que du pur lobbying. Les stratégies d'influence étant au final exactement quasiment les mêmes, si ce n'est que peut-être les cibles. Et on verra que ça pouvait être vrai encore il n'y a pas très longtemps. Maintenant, les ONG tapent tous azimuts avec des moyens qui sont, même à la rigueur, on se le permet même pas nous-mêmes. Donc, c'est à garder en tête. Je voulais quand même juste revenir un peu pourquoi à Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, bon, d'abord qui sont à Bruxelles. Le bureau de Bruxelles au MEDEF a pour vocation, bien évidemment, d'accompagner tous ceux et celles qui sont autour de ce téléphone, de cette visio. Je pense que c'est important d'être à Bruxelles. Beaucoup d'entreprises sont à Bruxelles. Donc la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi veut-il être à Bruxelles? Surtout qu'on a souvent ramené le lobbying français à Bruxelles sur le mode du syndrome Thalys, qui est quand même qu'à 1h20 de Bruxelles. Est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir des gens à Bruxelles? En fait, on est tous arrivés, je crois, à un moment donné, à une vision qui est que tout de même, il faut avoir des intérêts qui soient bien à Bruxelles, enfin des entités qui s'occupent de vos intérêts à Bruxelles. Alors peut-être pas tous, mais vous avez quand même absolument besoin d'avoir un pied ou deux pieds, et on verra après le jeu des acteurs, et c'est un peu justement cette stratégie qui doit être décidée. Alors ça peut être une fédération qui vous accompagne, ça peut être une fédération européenne, ça peut être une coalition à laquelle vous participez et qui, from time to time, vous fait aller à Bruxelles. À la rigueur, après, le choix est très large, mais il faut être à Bruxelles. Et la raison la plus logique, en tout cas moi, après quelques années passées à Bruxelles pour une grande entreprise et maintenant pour le MEDEF, c'est qu'il y a un vrai besoin de faire aligner les décisions stratégiques d'une entreprise avec le programme des institutions. Et vous ne pouvez pas de loin, ou si vous le faites, vous êtes toujours un peu en décalé par rapport au timing. Et il est vrai que s'alimenter de ce que l'Europe prépare et alimenter l'Europe de nos propres stratégies, de nos propres directions, tout ça fait qu'à un moment donné, on aligne les planètes. Et c'est cet alignement des planètes qui est fondamental, qu'on peut faire de partout, hein, bien évidemment, mais qui se fait, on va dire, à plus d'aisance, de manière beaucoup plus fluide quand on est à Bruxelles. Et ça permet surtout quand on est à Bruxelles, dans des rencontres un peu informelles, d'apporter cette stratégie business au quotidien et de sensibiliser plus, de convaincre aussi plus, en tout cas on l'espère. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit zoom un peu générique pour le pourquoi. Maintenant, c'est quoi la réalité lobbying à Bruxelles? Pauline, tu veux peut-être nous parler de la nécessité qui n'est pas que de mobiliser l'externe, mais bien aussi l'interne.
Oui, en effet, donc les actions de lobbying sont faites, comme on l'a mentionné précédemment, par des retours aussi terrain, donc des choses très concrètes. Et pour ça, il faut en amont, donc avant d'aller influencer les acteurs ou d'entrer dans des échanges avec eux, il faut forcément mobiliser en interne, donc c'est-à-dire avoir suffisamment d'informations, de contexte aussi, puisque chaque législation ou projet de législation va s'inscrire dans un contexte bien particulier. Donc, pour avoir toute cette matière première, donc naturellement, on va chercher en interne. Donc, au MEDEF, nous avons ce qu'on considère comme les experts, donc qui sont dans chaque pôle différent à Paris, donc qui sont des experts de leur sujet, de quelques dossiers. Donc, ils ont vraiment une expertise sur ces dossiers-là. Et ensuite, on va bien évidemment mobiliser également via ces groupes de travail, ces comités, ces commissions, les fédérations, des retours également des MEDEF territoriaux, la mobilisation également des instances dirigeantes de l'entreprise ou des organisations, afin de pouvoir avoir suffisamment d'éléments pour ensuite être vraiment crédible lorsqu'on va mobiliser justement les acteurs extérieurs.
Super. Non, vraiment, je pense que c'est important parce que quand on parle lobbying, tout le monde est tourné vers l'extérieur. Et c'est une réalité, bien sûr, c'est vers l'extérieur qu'on fait le lobbying, hein. Mais très souvent, qu'on soit dans une entreprise, et vous le savez toutes et tous, je pense, ou qu'on soit dans une fédération, ou qu'on soit dans un MEDEF territorial, ou quoi que ce soit, on a quand même parfois des besoins, on sent qu'il faut faire quelque chose, et on doit convaincre d'abord l'interne de qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, et sur quelle base il faut le faire. Et donc, il nous faut de la matière, il nous faut ramener un peu les forces, il faut une position, un compromis, une recherche de compromis. Et tout ça, en fait, ça ne vient pas tout seul. Donc, en fait, la mobilisation interne d'une action de lobbying ou quand vous êtes lobbyiste est tout aussi importante, voire même quelque part plus fondamentale que la mobilisation externe. Parce que plus vous êtes fort et plus vous drainez du soutien, de la clarté sur ce que vous voulez, de la matière première, parce qu'il y a plein de matières premières, et là on cite en effet toutes les entités sur lesquelles on s'appuie, puisque notre crédibilité ne passe que par cette matière-là. Et à ce moment-là, on est légitime à aller vers l'extérieur. Et vers l'extérieur, là, après, il y a toute une pluralité d'acteurs. Alors, bien sûr, notre cible, on va dire intuitivement, quand on est à Bruxelles, tout le monde pense que c'est les institutions européennes, qu'on a vu lors de la dernière session, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, je ne vous ai pas dit en introduction, mais s'il y a des questions d'un seul coup, vous avez la question qui pop-up en disant non, mais attendez, je ne me souviens plus, alors pourquoi elle dit ça? Vous m'interrompez, hein, c'est beaucoup mieux, plus sympathique, donc n'hésitez pas. Mais donc, bien évidemment, on cible les institutions européennes, mais pas que. Parce que quand on dit qu'on s'appuie sur une fédération sectorielle, donc là, je suis désolée, j'en ai mis que quelques-unes, et donc j'ai dû faire un choix, et tout choix veut dire renoncer à d'autres. Mais on sait très bien que vous êtes toutes et tous représentés assez largement à Bruxelles par différents biais. Donc il y a les fédérations sectorielles qui sont fondamentales. Donc là, j'ai mis celle des constructeurs automobiles, j'ai mis Cosmétique Europe, j'ai mis les électriciens, mais clairement, elles sont à la fois des outils de ce lobbying, mais elles sont également, et donc on les utilise pour faire passer nos positions, mais elles sont également des endroits où on doit faire du lobbying. Parce que concrètement, moi, quand je vois la CEA, c'est pas parce qu'on est à la CEA qu'on est d'accord entre constructeurs automobiles. Donc il y a aussi, donc on a drainé tout ce qu'on pouvait en interne. On a amené de la matière, on l'a construite, on est convaincu qu'on porte la réalité par rapport au business, par rapport à tout ce qu'on a au quotidien dans notre entité. Là, il faut après quand on passe par une fédération ou autre, il faut qu'on convainque, qu'on arrive à obtenir le compromis pour après avoir un livrable qui va vers le but ultime du lobbying, qui est en effet, en l'espèce, les institutions européennes. Et donc ce travail-là, en fait, on le fait à plusieurs échelons et quasiment avec tous les acteurs qui sont comme vous à Bruxelles. Et c'est là où la stratégie joue, c'est que vous choisissez vos leviers. Et c'est selon le dossier, c'est selon la sensibilité du dossier, la technicité du dossier et bien sûr selon la cible finale de l'institution où vous allez targeter. Et là, le seul message que je voudrais faire passer, c'est donc dans les autres plateformes, il y a donc le conventionnel, hein, vous le voyez, les fédérations sectorielles, il y a les autres patronats, bien sûr, avec Business Europe. Marie-Christine avait eu l'occasion de vous en parler la dernière fois, donc une organisation qui est fondamentale par rapport au rôle qu'elle joue dans le lobbying que fait le MEDEF. Mais vous avez bien évidemment nos collègues de la FEP, vous avez France Industrie, et vous avez aussi nos autres collègues européens Business Europe, comme Cofindustria, BDI. Mais vous avez également donc les entreprises qui sont là. J'ai pris l'exemple là volontairement de Renault et Airbus parce qu'on a l'exemple de la data où là, les deux entreprises ont mobilisé volontairement beaucoup de leviers, dont le MEDEF, pour justement arriver en plus de leur lobbying individuel qu'ils faisaient très très bien, ils voyaient bien qu'à un moment donné, il fallait rallier plus de monde et donc ils ont changé leur stratégie et ils ont embrassé beaucoup plus large. Et c'est là où arrivent les autres plateformes, c'est que il y a d'autres biais pour faire du lobbying, des biais où quelque part vous créez une coalition. Donc là, c'est l'électromobilité plateforme ou des gens qui n'ont rien à voir normalement, des transports and environment qui sont plus ou moins contre la pollution, enfin comme tout le monde d'ailleurs, mais plutôt contre les voitures polluantes et autres, qui ont voulu vraiment taper fort sur le CO2, mais qui en même temps ont voulu prôner le véhicule électrique et qui du coup, avec des constructeurs automobiles, avec des énergéticiens, mais aussi avec des professionnels du rail, puisque Alstom était également cofondateur, ils ont créé cette plateforme qui, du coup, aujourd'hui est une plateforme extrêmement entendue par la Commission, parce qu'on y arrivera, mais la Commission a besoin de ces voies de compromis qui regroupent toute une chaîne de valeurs et qui, du coup, rend légitime beaucoup plus facilement les positions. Et ça leur permet, eux, de se dire, ah ben, je suis légitime à la prendre parce que là, ça couvre toute la chaîne de valeurs. Donc, c'est là où il faut souvent travailler sur la représentativité et la visibilité de votre entité, quel que soit le choix de stratégie que vous faites. Voilà, je me suis peut-être un peu trop étendue juste pour vous dire que les NGO, en l'espace de 10 ans, et là, je challenge n'importe qui de me dire le contraire, moi, il y a dizaines d'années, quand je suis arrivée, les ONG, c'était trois bouts de ficelle, beaucoup dans l'éructation et c'était pas très crédible. Aujourd'hui, c'est des machines de guerre. Elles embauchent beaucoup de jeunes de talent qui sont contents de travailler pour sauver le monde. Elles sont dans le plaidoyer, comme disait tout à l'heure Pauline, définitivement. Et aujourd'hui, c'est vraiment des gens extrêmement professionnalisés qui ont en plus des moyens financiers parfois compliqués à remonter. Et beaucoup plus que certaines entités privées. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir aussi parce que dans les coalitions, l'électromobilité, par exemple, le choix avait été fait justement de se rallier avec deux ONG extrêmement éructantes, qui étaient Transport and Environment et European Climate Foundation, pour arriver au moins à éructer ensemble sur un sujet. Et on voit bien que ça marche. Voilà. Si je continue, si nous continuons, alors le cadre réglementaire, Pauline, si tu veux en dire deux mots.
Oui, donc comme l'a dit Marie-France, souvent, bien souvent dans le privé, on est beaucoup plus, en tout cas, transparent au final que parfois certaines autres entités, y compris les institutions européennes, où parfois c'est un peu compliqué de remonter qui a eu quel rendez-vous avec qui, à quelle date, etc. Ça a changé récemment, puisque bon, comme vous le savez peut-être, les lobbyistes, donc toute personne tout représentant d'intérêt à Bruxelles, se doit d'être enregistré au registre de transparence. Dans l'optique de pouvoir entrer au Parlement ou d'effectuer des rendez-vous avec des représentants politiques. Et ces règles sont, il y a également des règles de transparence qui sont appliquées aux fonctionnaires européens, qui ont été challengées et qui vont être renforcées tout au long là, de cette année, avec une révision notamment également du règlement intérieur du Parlement suite au fameux scandale Qatargate, qui a vu une vice-présidente, une ex-vice-présidente du Parlement européen désormais, qui était accusé de corruption par du coup un pays. Voilà. Et si aujourd'hui on prend les chiffres, donc là vous voyez, donc c'est des informations qui sont publiques, hein. Tout le monde peut consulter le registre de transparence, voir qui est enregistré. Donc aujourd'hui, voilà, on vous avait mis à date 17 mai à peu près plus de 12 000 personnes qui sont enregistrées sur ce registre, sachant que on estime en 2023, donc c'est un peu compliqué parfois à vraiment avoir le nombre exact, mais à peu près 30 000, voire plus, de personnes représentant d'intérêts présents à Bruxelles. Donc Bruxelles, c'est vraiment une ville où il y a énormément de représentants d'intérêts, sachant qu'on inclut également les représentants de régions ou d'autres entités, hein, pas exclusivement des personnes représentant des ONG ou du secteur privé.
Non, mais c'est clair que je pense que c'est ça. S'il y a vraiment, au-delà de la première image un peu amusante qu'on avait mis, et là de la deuxième qu'on met ici, clairement, il y a quand même des comportements, et je pense que Paris, enfin en France, avec la HATVP, c'est la même chose, mais la Haute Autorité, mais on a vraiment un vrai sujet, il colle au lobbying, malheureusement. Et pourtant, à Bruxelles, l'actualité me fait mentir quelque part, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de règles qui nous permettent de suivre. On sait exactement qui a rencontré qui. Ça aussi, ça peut faire partie d'une stratégie. On ne l'a pas mis hein, dans cette étude, dans cette présentation aujourd'hui, donc je vous le glisse comme ça, mais parfois, il est intéressant d'aller voir justement les commissaires. Ça se fait, je crois qu'on. Tous, on l'a fait au moins une fois pour voir un peu qui a rencontré qui, pour voir quelles industries rencontrent quels commissaires. Et ça donne là aussi un angle de lecture qui peut être assez intéressante. Alors, voilà, on ne peut pas le faire tout le temps, mais c'est vrai que très souvent, ça donne un éclairage nouveau. Voilà, donc ça, c'était une sorte de petite introduction par rapport au lobbying un peu en hauteur. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions, parce que n'hésitez pas, hein, l'idée c'est que ça soit le plus lively possible, le plus vivant possible. Non, je vois pas de petites mains qui se lèvent. J'ai l'œil acéré.
Non, il n'y a pas de questions dans l'immédiat, mais ça
Bon.
n'empêche que si y en a qui arrivent par la suite, n'hésitez pas.
Et Céline, merci de nous alerter que si je ne les vois pas. Et on va donc mettre ça sur le compte qu'on est tellement clair que c'est juste de dingue, quoi. Donc voilà, hein, on va dire ça. Allez, on va continuer par contre parce que c'est important de rentrer un peu plus maintenant dans la dynamique, donc en pratique. Et avant de vous faire un point un peu institution par institution, sachant qu'on a fait que les trois principales, hein, le fameux triangle dont je vous parlais après. Mais là déjà, le lobbying en pratique, on vous a préparé quelques petits éléments clés. En faisant ces slides, juste pour que vous sachiez, parfois je me disais, mais ils le savent tout ça. Mais bon, écoutez, c'est mieux en le disant, comme disait ma grand-mère. Donc on va y aller. Pauline, le floor is yours.
C'est parti. Donc, la boîte à outils du parfait lobbyiste. Donc, on vous a simplement rappelé que la base du coup d'une action d'influence, c'est naturellement d'avoir les informations nécessaires. Donc, on a la matière qui vient du coup de la mobilisation en interne. Et pour aller ensuite construire une stratégie d'influence en externe, il nous faut déjà voilà, les informations sur qui est en charge du suivi de ce dossier, quand est-ce qu'ils vont se réunir, quel est le calendrier législatif de ce dossier. Donc, ça commence naturellement par l'action de base qui est une veille active des actualités et des sujets législatifs. Donc là, on a l'exemple. donc on peut passer à l'exemple directement. Hein. Donc ça, c'est typiquement les
J'attendais que tu
informations.
parles de la cartographie des acteurs. J'ai merdé. J'ai
Il
merdé.
n'y a pas de souci, on va prendre l'exemple de suite. Donc, c'est des informations qui sont publiques. En revanche, le cheminement pour accéder à ces informations est bien souvent complexe. C'est pour ça que parfois, des personnes qui n'ont pas l'habitude peuvent avoir du mal à trouver certaines informations. Donc là, on a l'exemple d'un work in progress. Donc, c'est un document qui est public du Parlement européen, d'une commission, qui ici va en fait nous permettre de retrouver un texte que l'on veut suivre avec qui est chargé du suivi de ce texte dans les commissions qui sont commissions au fond, donc la commission qui est principalement chargée du dossier avec également des commissions pour avis. On va également avoir les dates, donc les dates des réunions, des échanges en commission, les dates des délais d'amendement, donc les amendements qui sont bien souvent déposés également, enfin, des entités privées peuvent également proposer des amendements et les envoyer aux eurodéputés, etc. Donc ça, c'est un document qui est assez important pour nous, sachant que, encore une fois, ça dépend des commissions, des dates de mise à jour, etc. Donc bien souvent, il faut recouper ce document avec d'autres informations. Donc on peut repasser à
Et
la
je
boîte à
pense, si
outils.
je peux juste me permettre, Pauline, parce qu'en fait, je pense que l'idée, quand vous voyez un document de ce type-là, en fait, le message fort qu'il faut faire passer, c'est que clairement, tout est disponible. Avoir de l'info à Bruxelles, ce n'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Si vraiment vous êtes un peu débrouillard, vous pouvez vous balader sur Google, et si vraiment un jour vous n'avez rien à faire, vous êtes en pleine dépression, vous passez une journée devant votre ordinateur, vous allez tout voir sur ce que fait l'Europe et ça va être juste énorme. Le problème, c'est de comprendre et d'avoir un peu les clés de lecture. Parce que l'air de rien, c'est un peu comme des juristes quand ils vous parlent droit, il y a toujours des terminologies qui ressortent, histoire de vous faire comprendre quand même, voilà, c'est pas si simple que ça. Mais concrètement, tout est accessible et le vrai challenge, c'est l'analyse. Voilà, excuse-moi, Pauline. Je
Non,
voulais
mais
juste te dire que moi, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'avait fait un peu.
j'ai vu qu'il y avait une question justement sur ce document, donc je peux
Ah,
y
voilà.
répondre de suite sur où est-ce qu'on trouve ce document. Donc c'est très simple, on va sur le site du Parlement européen, on choisit ensuite la commission que l'on suit, donc par exemple la commission environnement. donc commission Envie. On va ensuite être dirigé sur le site de cette commission et sur la page d'accueil. Il y a un document qui s'appelle Work in Progress. Donc, on clique dessus. Il y a la date de la dernière mise à jour. Et on va ensuite pouvoir du coup avoir accès à ce document. Normalement, c'est sur le site de chaque commission. Voilà.
Et le joker, c'est que si jamais vous n'y arriviez pas, il n'y a pas à hésiter. Il y a des équipes comme la nôtre aussi qui sont à votre disposition pour vous accompagner et vérifier que vous avez bien la dernière version ou à la rigueur, vous donner une information off du fait d'être à Bruxelles. On sait que ça va bientôt sortir ou autre. Donc, ne pas hésiter. Et s'il y a besoin d'une prise en main, en effet, sur ce type d'outil, on est à votre disposition parce que c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir le bon, voilà, la bonne prise en main comme une voiture. Les 5 premières minutes sont les plus importantes, mais après, ça roule. Alors, on continue.
Donc, ensuite, cette information nous permet, enfin, ce document, par exemple, va également nous permettre de faire une cartographie, hein, cartographier les acteurs et le biorhythme, donc également, voilà, comme on disait, le calendrier. Ce qui est essentiel pour comprendre en fait vraiment l'écosystème qui entoure ce dossier, puisqu'un dossier, c'est jamais une législation isolée, mais qu'il y a toujours une volonté politique derrière, donc qui va être plus large, par exemple, typiquement le pacte vert européen, où il y a énormément de législations qui vont y être. Qui ont été proposés ou qui sont liés justement à cette volonté politique-là. Donc, vraiment, toujours aussi garder ça à l'esprit. Et ça permet également ensuite, donc une fois qu'on a toutes ces informations-là, qu'on sait qui cibler, quand cibler, ce qu'on va également expliquer un peu plus tard dans ce webinaire, ça vous permet voilà, de créer un réseau de contacts en amont. Et ce qui est important également, c'est de le pérenniser. Là, peut-être que Marie-France, tu souhaites... intervenir sur la...
Non. Enfin, si, c'est important parce que c'est... C'est vrai que là, on pourrait dire deux mots, mais on ne l'a pas dit au début, et c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde, mais ne vous trompez pas, quelle que soit l'entité, le vecteur que vous allez utiliser, ça reste quand même le lobbying très intuitif, personnel, très individuel comme chose. Donc, automatiquement, un réseau de contacts, ça se partage, il n'y a pas de sujet, mais vous devez quand même créer une relation. La crédibilité que vous avez acquise en créant votre contact grâce à la matière que vos experts vous ont apporté ou que vous apportez naturellement, vous n'êtes pas toujours obligé de passer par des experts si vous l'avez la connaissance. En tout cas, ce que vous créez via la crédibilité et le respect que vous créez, clairement, il faut le pérenniser. Et souvent, à Bruxelles, il y a tellement de gens que vous rencontrez quelqu'un de sympa et vous oubliez ce fil. Enfin, voilà, il y a le one shot et il n'y a pas le second shot. Et c'est dommage parce qu'à un moment donné, à Bruxelles, je me suis souvent rendu compte qu'après plusieurs mois, les gens bougent et que la personne dont j'avais besoin manque de peau, c'était celle que j'avais complètement oublié de rappeler 6 mois auparavant et c'était bien dommage. Et il n'y a rien de mieux qu'un lobbying qui se fait sans demande, une prise de contact qui se fait sans demande pour que le jour où vous ayez une demande, vous ne vous apparaissez pas comme quelqu'un qui vient toujours voir les gens juste pour demander des choses. Donc ça, je pense que c'est fondamental et ça s'oublie. Et pourtant, ce n'est même pas une question de lobbying là, hein. C'est un peu la vie humaine et les relations humaines. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ça a l'air un peu simple, mais je pense que c'est important.
Tout à fait. Et du coup, ça permet voilà, donc d'activer les bons relais d'influence. Et également, voilà, une fois qu'on a ces prises de contact-là, donc effectivement, d'abord, essayer de créer un lien un plutôt personnel avant effectivement d'envoyer les amendements un jour avant la deadline en disant « voici mes amendements » sans être jamais introduit. Effectivement, voilà, on sera peut-être moins pris en compte que si on a déjà un lien antérieur à cet échange. Et donc, ça, il s'agira après de créer les bons outils donc, pour convaincre. Donc, c'est-à-dire, ne serait-ce que déjà un mail, dans la rédaction d'un mail, par exemple, si on veut faire passer un point clé, il faut éviter, c'est comme tout, hein, les mails à rallonge, puisqu'il y a les boîtes mails qui sont pleines, donc aller vraiment à l'essentiel. Et également pour les positions, par exemple, souvent, il y a des positions qui sont envoyées aux eurodéputés, par exemple. Donc, si c'est des positions qui font 5, 6, 7 pages où il n'y a pas vraiment d'organisation visuelle, où vraiment les informations clés ne ressortent pas facilement, entre eux, des dizaines, voire des centaines de positions qui vont recevoir pour un dossier, il est possible que du coup, ça passe un petit peu à côté. Et également, il faut l'adapter en fonction de la cible, donc c'est-à-dire en fonction de l'interlocuteur que l'on souhaite convaincre, avec lequel on souhaite échanger. Naturellement, il faut être capable d'adapter ces messages et la forme du message avec le fameux, ce qu'on appelle le message ascenseur. Donc c'est par exemple, vous retrouvez dans un ascenseur avec une personne, je ne sais pas, vous prenez l'ascenseur au Parlement européen, par exemple, vous avez vraiment quelques minutes, même pas, pour juste faire passer le message clé qui doit être facilement délivrable et facilement compréhensible aussi.
Ce message ascenseur, tout le monde le connaît, hein, la petite expression, mais il est fondamental. Le nombre de fois où vous êtes retrouvé, mais même dans vos entités, à avoir une opportunité d'approcher quelqu'un que vous n'avez pas, enfin, que vous n'avez pas prévu, et là, il vous pose la question juste à deux balles, et si jamais vous deviez travailler sur un truc, ce serait quoi, et que vous ne savez pas, parce qu'en fait, vous avez plein de choses qui vous viennent. Et donc, il faut toujours être prêt, et je pense que le message ascenseur est vraiment un petit truc qui permet en plus de se poser les bonnes questions de j'ai envie de dire quoi? Et qu'est-ce que je dis de manière le plus performante possible? Et à Bruxelles, ça fonctionne du tonnerre, puisque justement, on se retrouve souvent dans des endroits où on n'a que quelques secondes pour dégoter la bonne idée et la faire passer très rapidement. Que ça soit à Bruxelles ou à Strasbourg d'ailleurs, parce qu'à Strasbourg est aussi un endroit où ça arrive très souvent. Et tout ça, pourquoi? Pour convaincre. Donc là, je pense qu'on va pas s'éterniser parce que convaincre, ça vous le savez, mais je pense que Pauline l'a déjà souligné, c'est que la position très souvent est trop longue et on essaye dans un papier de mettre toute l'intelligence qu'on pense importante. Et elle est importante. Le problème, c'est que cette intelligence, qui est une intelligence pour nous et on veut faire passer tous les messages et on veut faire des belles phrases et on veut mettre ça dans un contexte, ce qui est très bien d'ailleurs la mise en contexte, on va le voir après. Mais c'est beaucoup trop long. Et Pauline le disait, aujourd'hui, nos décideurs, les parties prenantes qui peuvent agir, n'ont pas le temps de tout avaler. C'est pas possible. Et même nous, d'ailleurs, avec tous les mails qu'on reçoit, on reçoit, moi, depuis que je suis arrivée au MEDEF, il y a mes collègues qui font des très belles position papers. Enfin, j'essaye de prendre le temps de lire sur le market design et tout, mais il y a tellement de choses à lire que je dois abandonner l'idée de tout lire. Donc, je me mets à la place d'un député, je me mets à la place d'une commission. Ils veulent, ils ne peuvent pas toujours, donc il y a besoin de se dénoter. Et pour se dénoter, il faut savoir ce qu'on veut obtenir. Et très souvent, on voit bien que quand vous lisez un position paper, il y a trop de choses, quoi. C'est la lettre au Père Noël. C'est la to-do list de ce que je veux. C'est bien dans un cadre technique où vous avez un rendez-vous, où la commission, ou le Parlement, le Conseil est en attente de ça, ils vous l'ont demandé. Et là, c'est parfait, ça répond à l'attente. Mais quand vous êtes sur du mode agile, je vais vite et je veux obtenir quelque chose, clairement, c'est pas avec un roman. C'est juste pas possible. C'est juste avec une accroche. C'est tout. Donc c'est ça qu'il faut vraiment travailler de manière très forte si on veut vraiment obtenir du retour et surtout d'avoir une stratégie d'influence qui soit adaptée du coup à cet objectif qu'on a bien ciblé et en mettant en avant la réalité économique, la réalité technique, la réalité consommateur, la réalité sociétale en quelques lignes et vous parler avec des mots simples parce que ça aussi il y a beaucoup de notes qui sont avec un propos assez ampoulé. Je pense que ça a fait son temps, ça a peut-être eu du succès avant. Je pense plus que ça le soit vraiment aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Si on continue, quand vous disiez donner de la visibilité, c'est bien. Je vais aller vite, Pauline, si tu le permets, parce qu'en fait, là, je pense que l'idée, c'est ça que vous deviez, c'est qu'un dossier ne se travaille jamais seul. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas traiter un dossier sans le mettre en perspective d'autre chose. Donc d'abord, c'est est-ce que vous êtes bien conscient de tout ce qu'il y a sur la table globalement, comme ça votre dossier, vous arrivez à le remettre en perspective. On a pris l'exemple du Critical Raw Material Act, juste pour vous montrer l'idée. C'est quoi le process? Le process, c'est que vous ne pouvez pas travailler sur cet acte sans prendre conscience qu'il y a des interactions avec d'autres. Et si vous ne prenez pas conscience qu'il y a des interactions avec d'autres, quand vous allez faire votre position paper, vous allez perdre votre auditoire, ou alors vous n'allez pas le perdre, vous n'allez pas l'accrocher. Alors que quand vous arrivez en lui apportant de l'intelligence, qu'il n'a pas le temps de faire, parce que lui, il n'a pas le temps de monter en haut de la tour Eiffel pour voir un peu ce que ça donne, donc il attend de vous que vous puissiez lui apporter ça. Et donc ce genre d'exercice, là, ce que moi j'appelle la pieuvre et que l'équipe fait maintenant aux affaires européennes du MEDEF, c'est justement de prendre de la perspective. Et quand on prend un Critical Raw Material Act, on se rend compte que les enjeux, bien sûr, du direct, c'est... Et là, on ne rentre même pas, hein, autour, vous n'avez même pas le cœur du sujet, hein, qui est donc les matériaux critiques. Mais vous le mettez avec le problème du travail forcé, vous le mettez avec le problème du CHIPS Act, parce que quand même, dedans, il y a beaucoup de liens. Vous le mettez bien évidemment avec la problématique de RED et de tout ce que ça implique sur la feuille de route de l'Europe. Vous le mettez avec le net zéro industriel qui vient de sortir et qui est dans la même dynamique de réponse à l'IRA. Mais vous le mettez aussi dans l'enjeu des compétences, hein, puisqu'il y a quand même l'ADG Emploi qui va s'en saisir au Parlement. Vous avez aussi, bien évidemment, tout l'enjeu de la concurrence internationale, parce que quoi qu'on en dise, le commerce international va être fondateur, va être fondamental pour sécuriser des filières d'approvisionnement. Les accords commerciaux doivent aider à ça. Alors, c'est vrai qu'entre le problème de l'automobile et le problème des vaches, voilà, on a du mal à faire des arbitrages, mais là, justement, il y aura des arbitrages à faire, voire même, il y a peut-être la création d'accords commerciaux qui vont devoir être mis en place spécifiquement pour ce point-là. Donc, c'est vraiment une mise en perspective, et c'est ça qui donne dans toute stratégie de lobbying, en tout cas à Bruxelles, qui vous donne une accroche que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est fondamental. Voilà, je pense que là, on a à peu près fait le tour. Je ne sais pas, après, l'exaction de lobbying, c'est quand? Parce que j'aimerais vous laisser quand même du temps pour vous exprimer. Et comme là, vous ne levez pas la main, j'espère que c'est parce que vous comprenez tout, mais j'espère aussi que vous aurez des questions. Si on se résume, il faut faire du lobbying quand? Donc là, vous avez la photo que vous connaissez maintenant par cœur et que vous êtes incollable, c'est le fameux triangle institutionnel. Et quand vous voyez les flèches rouges et tout, c'est qu'en fait, le lobbying, concrètement, vous le faites à tout moment. Vous le faites en amont, bien évidemment, puisque vous impulsez sur des dynamiques réglementaires qui vont venir. Vous alertez avec des informations perçues, décryptées, et là, on vous l'a dit. Vous préparez du coup, selon les orientations politiques qui tombent, vous préparez des stratégies de lobbying. Vous êtes en réaction, en accompagnement, enfin, il y a plein de jeux. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites, bah, en fait, je fais du lobbying tout le temps. C'est pas faux. Maintenant, quand on veut un peu zoomer, et là, Anne va vous faire un zoom, il y a des gens qui ont étudié pour dire quand c'est le mieux. Anne.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-France. Effectivement, ce schéma peut paraître complexe, mais en fait, c'est une courbe de l'influence. Je vais expliquer le schéma, mais en gros, comme l'a dit Marie-France, à tout moment, c'est bien d'agir. Néanmoins, il y a des moments qui sont plus impactants que d'autres. Donc, on voit sur ce schéma, en abscisse, il y a une courbe du temps, plus on avance dans le temps. En ordonnée, une courbe sur l'influence. Et on voit qu'on agit et on voit des petits plus. Ouais. Donc, la courbe, qu'est-ce qu'elle montre? Eh bien, elle montre que, finalement, plus on agit en amont, mieux c'est. C'est-à-dire, plus on sait que c'est le pouvoir d'initiative des actes législatifs appartient à la Commission européenne. C'est elle qui va rédiger. Donc, l'idée, ce serait finalement presque d'écrire à sa place, d'une certaine façon, pour que l'acte législatif prenne en compte, évidemment, les intérêts ou, en tous les cas, les difficultés ou les avantages que pourrait avoir cet acte juridique pour les entreprises. Mais disons que plus on tiendra le stylo, plus on pourra influencer le contenu de cet acte législatif, plus ce sera impactant et pour nous et donc favorable. C'est assez difficile à faire, évidemment, mais néanmoins, c'est quand même à ce moment-là qu'on peut avoir le plus d'influence. Donc, vous voyez que il y a la période, finalement, avant la rédaction de l'acte, enfin, du texte juridique, que ce soit un règlement, une directive, une recommandation, qui passe par des étapes préalables au niveau de la Commission européenne, communication, stratégie. Là, évidemment, elle publie parfois une consultation publique où tous les citoyens européens, généralement, les alliances, bien sûr, les organisations patronales peuvent participer. Elle fait aussi une étude d'impact. Donc, tout ça sont des phases dans lesquelles il est important, bien sûr, d'agir. Et je dirais, voilà, plus on va avancer dans le temps, plus ce sera un peu compliqué. Il sera toujours nécessaire d'agir, mais l'impact sera sûrement moins grand, parce qu'on sait qu'une fois que c'est écrit dans le marbre, je dirais que c'est écrit dans le texte de la Commission et que le texte est publié, il sera évidemment plus complexe de modifier complètement le texte. On arrivera toujours et on essaiera toujours pendant la procédure de co-législation auprès du Parlement et auprès du Conseil de faire évoluer le texte d'une certaine façon, on va y revenir, mais on ne pourra pas tout réécrire. Donc ça, c'est une période où là, on a quand même un peu moins d'impact. Et puis après, il y a la période des trilogues où donc, une fois que le Parlement a pris sa position, que le Conseil a pris sa position et que la Commission avait proposé son texte, eh bien, les trois institutions, d'où le mot trilogue, échangent pour aboutir à un accord. Voilà, donc ça c'était un schéma, parce qu'on aime bien les schémas dans l'équipe, qui montre clairement que plus on agit en anticipation, plus on a de chances d'avoir un impact.
Absolument, je pense que là c'est super. Et ce schéma, en effet, comme l'a dit Anne, pouvait être un peu aride comme ça, mais là je pense qu'elle vient de vous faire un décor parfait. Donc merci Anne. Alors au-delà du temps, du quand, parce qu'en fait là c'était vraiment le quand on le fait, il y a une stratégie du quoi, on va dire. Et là, alors là j'ai pris bien sûr l'exemple que je connais mieux, hein, je m'en excuse, hein, je trouvais que c'était intéressant quand même de le mettre. C'est que la plupart du temps, on fait du lobbying sur quoi? On fait du lobbying sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire le corps, ce que j'appelle moi le corps business. Donc là, c'est l'exemple de l'industrie automobile, et bien évidemment, l'industrie automobile, pendant des années, son corps business était réglementation CO2, tout ce qui était en lien avec le CO2. Donc ça, c'est un peu naturel, et on fait tous pareil, on se raccroche sur ce qu'on sait, puis surtout l'impact premier du business, du coup, on travaille dessus, ça paraît assez logique. Là où ça devient, alors attendez, excusez-moi, je me suis dit, voilà, là où ça devient un peu plus tricky, on va dire, c'est que, par exemple, c'est toujours dans la. Dans cet exemple-là, les data, les données. D'un seul coup, il y a eu des données, c'est de l'agenda numérique, on parle de données, tout ça, tout le monde veut faire du business sur les données. Là, intuitivement, l'industrie automobile, les données, ça lui est passé un peu au-dessus quand même, vous voyez. Donc, il a fallu clairement courir après en se disant, mais alors, ces sujets transversaux qu'il y a à peine quelques années, je ne suivais pas du tout, en fait, ils deviennent importants. Ils sont toujours pas dans mon core business, mais ils vont impacter définitivement mon business. Donc, il y a un shift à faire aussi et à savoir, à mettre de l'intelligence sur quel sujet je suis et pourquoi je le suis. Donc, le core business, c'est une évidence, mais les sujets transversaux, il faut surtout pas les négliger. Après, il y a aussi les sujets dits business. Et là, je prends l'exemple bien évidemment du véhicule électrique, puisqu'il y a des constructeurs qui ont anticipé ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais l'ont anticipé dans une vision, et c'est là où c'est assez drôle, une vision de niche. C'est-à-dire que le véhicule électrique devait répondre aux problématiques de ville. Et d'un seul coup, il y a eu toute la société qui s'est emballée et on est sur une masse production. Donc personne n'avait vu venir ça. Donc d'un lobbying qui fondamentalement se voulait être intelligent et anticipateur, on en a fait quelque chose qui s'est un peu retourné contre nous. Et le dernier sujet qu'il faut jamais négliger et qui est fondamental, c'est le fameux sujet dit de prospective, de moi j'appelle ça le kit glamour. Ça, c'est une petite expression. C'est-à-dire que vous avez toujours dans vos entités, dans votre quotidien, des choses dont vous êtes fier et que vous travaillez pour votre business. Créer une fondation, vous réfléchissez aux compétences, vous voulez faire travailler les seniors, vous voulez faire des écoles. Enfin, il y a toujours quelque chose de positif. Là, en l'espèce, c'était l'économie circulaire. Il y a 15 ans, l'économie circulaire n'était absolument pas un mot à la mode. Il y a 15 ans, l'industrie automobile, en tout cas certains constructeurs, se sont mis bien en avant sur les autres. Pendant des années, ça a matraqué sur ce que cette entreprise faisait. Elle s'investissait beaucoup, elle produisait beaucoup, elle avait des chaînes de valeur qu'elle aimait. Et donc là, il se passe ce qui, normalement, si le boulot est bien fait, qu'après année où c'est anticipation inspirant, ce qui était en fait un sujet juste de crédibilité et autres devient un sujet de core business. Et l'économie circulaire qui, hier, pour l'industrie automobile, était juste une sorte de petite cerise sur un gâteau, est devenue, dans les processus, dans l'architecture, dans tout ce que l'automobile fait, est devenue un sujet core business. Et donc, cette approche sujet est tout aussi importante, mais du coup, en plus long terme, que le timing court terme sur certains sujets. Voilà. Donc, là, on vient de bloquer un peu cette partie-là. Maintenant, on va vous faire sur la dernière ligne droite. Anne va prendre le lead assez rapidement. Il nous reste 12 minutes. Il n'y a toujours pas de questions à ce stade?
Non, il n'y a toujours pas de questions dans le chat, en tout cas.
Super. Écoute, voilà. Eh bien, alors, on va continuer, Anne. On va continuer sur formation. Allez, vous.
Ok, on continue. Donc on a vu que, bien sûr, il était nécessaire d'agir à tout moment de la procédure, même s'il y avait des moments plus impactants que d'autres, qu'il fallait être à la fois un acteur responsable du lobbying et un acteur crédible. On voit là que s'il y a trois institutions qui sont importantes, on n'a pas cité les autres, mais celles-là, disons, sont quand même les plus importantes, et qu'il faut, l'autre point, c'est qu'il faut agir auprès de ces trois institutions. Pour la Commission européenne, donc, Sans me répéter, mais en essayant d'aller un peu plus vite, évidemment, c'est quand même là qu'il faut agir vraisemblablement en premier, vu le pouvoir d'initiative qu'a la Commission européenne. Bien sûr, il faut agir dès, je dirais, la connaissance de l'information, de l'intention presque d'une future législation. Avoir l'information, c'est bien, mais il faut tout de suite, évidemment, analyser l'impact possible du texte, réfléchir à la stratégie d'influence. Donc, voilà, comment agir? Eh bien, évidemment, il faut déjà, d'ailleurs, avoir finalement un réseau d'interlocuteurs dans les différentes directions générales de la Commission européenne, qui est donc découpée en plusieurs services, avec un commissaire pour chaque grande direction générale. Mais il faut agir auprès de plusieurs types de personnes, parce qu'on sait qu'il y a à la fois dans ces équipes des techniciens, enfin des services techniques qui écrivent le texte, ce qu'on appelle des unités, enfin des units, mais qui sont en charge des différents actes législatifs. Mais bien sûr, il faut aussi agir et rencontrer les personnes qui ont plus un rôle politique, comme les directeurs généraux de ces services et ou bien sûr le commissaire en charge de cette direction générale. Et comment aussi faire, mis à part des rendez-vous avec ces gens-là, il faut bien sûr aussi les inviter à des événements qu'on organise, il faut évidemment répondre à des consultations public. Il faut par exemple utiliser aussi le fait que, c'est pas spécifié là, mais quand une direction générale est en charge d'un sujet, par exemple la DG Environnement, elle doit consulter les autres directions générales au sein de la Commission européenne qui est un collège, et donc évidemment il y a une personne plus en charge, mais les autres sont consultés, donc ils peuvent aussi jouer un rôle pour influencer le texte. Voilà, donc il y a différents niveaux, je dirais, d'action possibles différents moments. Le deuxième acteur, bien sûr, auprès duquel il faut agir, c'est le Conseil. Le Conseil, donc, il y a un mouvement sans cesse au Conseil, en fait, au sein du Conseil. Il y a à la fois, finalement, des petits groupes de travail d'experts sur les sujets techniques qui vont étudier la proposition législative, je dirais en détail, la décortiquer, voir l'impact, j'imagine, sur la législation nationale et qui travaillent sur le texte, donc les 27, des 27 États membres qui se retrouvent régulièrement. Il y a le niveau technique, le niveau plus politique qui est le niveau du COREPER et puis le niveau du Conseil. Donc il faut à la fois rencontrer ces gens-là, bien sûr, leur apporter des informations avec évidemment adapter les messages qu'on veut leur faire passer, plus techniques au groupe technique, plus politiques au niveau des ambassadeurs. Mais ce qui est important au Conseil, quand on agit auprès d'eux, c'est évidemment d'être très cohérent dans sa prise de position entre le message qu'on va tenir eh bien à Bruxelles auprès de ces personnes qui sont constamment en négociation et sur le texte, et bien sûr auprès des capitales, c'est-à-dire pour nous à Paris ou dans chaque auprès des différents ministères ou du SGAE, parce que par exemple dans chaque cabinet ministériel eh bien il y a un conseiller diplomatique ou un conseiller en charge de ces questions européennes qui suit également les dossiers. Donc pour nous, ce qui est important, c'est un, bien sûr, d'être coordonnés dans nos relations avec à la fois Bruxelles, le Conseil à Bruxelles et puis à Paris, et cohérents, bien sûr, dans les positions que l'on tient. La troisième institution qui est de plus en plus importante, c'est sûrement le Parlement européen. Alors là, bon, on a reproduit l'agenda du Parlement européen avec effectivement les différents types de sessions, c'est-à-dire les sessions des commissions, où quand les commissions se réunissent, les réunions des groupes politiques, leurs activités, bon, parlementaires extérieures, et surtout les sessions de plénière qui ont lieu généralement à Strasbourg. Quand est-ce qu'il faut agir auprès du Parlement? Bien là, oui, au quotidien, c'est-à-dire, enfin, vraiment de façon très fréquente, parce que là aussi, il y a des personnes qui sont très impliquées. Enfin, il faut être au contact, gérer de finalement un peu tous les députés, mais il faut surtout identifier, bien sûr, les acteurs clés sur chacun des dossiers législatifs. Les acteurs clés, ce seront évidemment les députés qui ont été nommés rapporteurs ou rapporteurs fictifs pour leur groupe politique, qui sont donc le rapporteur est chargé de rédiger finalement le rapport, c'est-à-dire la position du Parlement européen sur un texte. Et donc, bien sûr, c'est ce rapporteur et les rapporteurs fictifs qui sont des acteurs clés, mais il y a aussi dans les commissions des acteurs, des députés qui ne sont pas rapporteurs ou rapporteurs fictifs et qui sont très intéressés par le sujet ou qui sont très actifs sur un domaine et qui vont du coup jouer un rôle dans les discussions. Et puis bien sûr, il y a aussi les coordinateurs des groupes politiques. Voilà. Donc il y a tout un certain nombre d'acteurs qu'il faut évidemment rencontrer pour expliquer la position que l'on a, pour proposer des amendements, pour échanger. Et ce qui a déjà été dit, mais qui est particulièrement vrai avec les députés européens, sans doute, et leurs assistants parlementaires, puisque bien sûr, je n'ai pas indiqué que ce qui est important, ce sont les députés, mais aussi beaucoup leurs assistants parlementaires, qui sont souvent ceux qui font les modifications sur le texte, qui travaillent assidûment sur ces dossiers, c'est qu'il faut être efficace et rapide, parce que les députés européens n'ont pas de temps, ils sont extrêmement sollicités, mais vraiment extrêmement sollicités, donc il faut être précis, concret et efficace pour faire valoir notre point de vue, enfin, ou faire passer nos points les plus importants. Voilà, il faut être présent, bien sûr, à Bruxelles, à Strasbourg, au café, au bar, dans les couloirs, dans les réunions de commission.
Voilà. J'avais dit qu'on n'en parlait pas de ça.
voilà ce qu'on peut dire. Merci. Pour ces trois institutions.
Merci Anne. Et je pense, si je peux me permettre, je vais rebondir juste pour dire donc ce que vient de dire Anne. Il y a deux choses ça m'amène deux commentaires supplémentaires qu'il n'y a pas sur le slide. D'abord, les assistants, le rôle des assistants. Ne vous méprenez pas. Un bon député, c'est un député qui a de bons assistants, parce que concrètement, c'est eux qui dépotent tout le temps, c'est eux qu'on contacte le plus rapidement. Alors bien sûr, après, on a des contacts directs avec les parlementaires, mais les assistants, c'est vraiment le cœur de la machine européenne. Et donc, bien évidemment, il faut aussi bien les approcher. La deuxième chose que ça m'amène, c'est ne jamais sous-estimer les stratégies qu'on vous a parlé. On a été très rapide. Par contre, vous avez encore votre micro, Anne. Je trouve que ça fait de l'interférence.
Pardon, excusez-moi.
Pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer certaines stratégies. Donc, on vous a parlé un peu des stratégies globales. Mais grosso modo, si vous deviez faire un résumé, il y a les stratégies, on va dire, d'opposition. Bon, Anne vous l'a dit, hein, une meilleure stratégie de lobbying, c'est d'écrire à la place de la commission, mais ça n'arrive que très rarement. À part quand on fait des choix, justement, d'alliance, de coalition, où la commission se retourne pour essayer de voir qui représente le plus de chaînes de valeur, que ça soit producteur, consommateur, que ça soit chaîne de valeur sur toute la chaîne de production, de création de valeur et autres. Donc là, elle peut prendre in extenso des choses, mais grosso modo, ça n'arrive quand même pas tous les jours. Donc après, il y a vraiment les stratégies à choisir. Et dans les stratégies, il y en a une qu'on ne vous a pas mentionnée, c'est aussi parfois, pas la terre brûlée, mais d'aller chercher les dissensions dans les partis politiques. Parce que le Parlement, c'est quand même une grande maison, plus de 700 députés, avec des partis politiques. C'est pas comme en France, tout le monde ne suit pas. Il n'y a pas une sorte de règle de parti, elle existe, mais on va dire qu'il se l'applique un peu moins qu'en France. Et donc, automatiquement, il y a des failles. Il y a des failles et il y a des coalitions qu'on peut jouer sur des sujets qui sont médiatiques, très sociétaux, consuméristes. Et là, il y a vraiment des choses à jouer. Donc, ne jamais sous-estimer dans une stratégie de lobbying certaines différences de groupe. Voilà.
On a une petite question.
Ah, une question.
Oui, on a une petite question. Est-ce que les noms des rapporteurs fictifs sont également connus ou il faut faire le tour des groupes politiques pour les connaître?
Anne, tu veux répondre ou j'y réponds et...
Oui, ben non, je vais y répondre, mais les rapporteurs fictifs, enfin toutes ces informations sont rendues publiques sur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur le site internet du Parlement européen, plus particulièrement dans les sites, dans les pages dédiées aux commissions, à chacune des commissions du Parlement selon le sujet, commission environnement, commission emploi, commission juridique. Et on trouve sur cette fiche, d'ailleurs, qu'on l'a montré précédemment, que Pauline a expliqué, à la fois les noms du rapporteur et des rapporteurs fictifs.
La seule chose que je rajouterais, c'est que parfois le timing n'est pas le même. C'est-à-dire que parfois, et on vous en avait parlé lors de la première séance, mais peut-être trop rapidement, c'est que la nomination d'un rapporteur est hautement politique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un texte de loi qui descend de la commission, et donc après ça se dispatche Parlement-Conseil, quand le Parlement s'en saisit, première question, ça va aller dans quelle commission? En général, c'est assez naturel, quoique il y a certains sujets récemment. On a vu, c'est tout le monde voulait se l'approprier, donc du coup il y a eu du dispatchage, du saucissonnage de textes qui a rendu les choses complètement incroyables. Et donc après il y a la nomination de ce rapporteur. Et le rapporteur ayant la plume quelque part pour le Parlement a un rôle très important. Et donc là il y a tout un jeu de comptabilisation par rapport à la nationalité, par rapport au parti, par rapport, enfin il y a plein de choses qui fait que la nomination d'un rapporteur est hautement politique. Et donc parfois ça prend un peu de temps. Je prends l'exemple là sur le NZI Act, la nomination d'une députée Renew française est arrivée assez tardivement dans le processus, ce qui fait qu'elle a plus que quelques jours pour faire un rapport qui, quand même, normalement, peut faire en plusieurs semaines.
Vas-y. Merci Marie-France. On a encore. Oui, j'espère. Marie-France, on a l'impression qu'on vous perd.
Vas-y, pose les questions.
Marie-France, alors la question était, tous les échanges se font-ils uniquement en anglais? Approchez-vous tous les groupes politiques? Quels sont ceux entreprises friendly? Avez-vous un exemple de lobbying réussi et non réussi?
Vas-y. Vous nous entendez?
Alors, ça coupait beaucoup. On avait une question, donc on l'a posée. Je ne sais pas si vous l'avez entendue.
J'ai entendu la question.
Ah, super, super. Donc, on n'a pas entendu.
Non, j'ai entendu.
Par contre.
Non, mais c'est mon problème, c'est que si je réponds, est-ce que vous m'entendez là, par exemple?
Oui, c'est parfait.
Bon, alors, en fait, Anne ou Pauline, ou même Marie-Christine et Margot, hein, je pense qu'on peut toutes répondre à ces questions. Donc, les échanges se font en anglais tout de suite.
Bon, je crois qu'on n'entend plus, on entend plus Marie-France. J'espère que vous m'entendez. Pauline, c'est bon?
Oui, je t'entends très bien, Anne.
Ok, très bien. Je vais essayer de commencer à répondre et puis Marie-France complétera ou toi, Pauline, tu vas compléter. Alors, la première réponse, est-ce que tout est fait en anglais? Ça dépend où. Normalement, les textes des propositions législatives sont généralement publiés effectivement en anglais principalement, ensuite parfois traduites dans quelques autres langues comme le français. Les discussions au Conseil sont généralement faites sur la base du texte en anglais. Et au Parlement également, même si les rapports sont ensuite traduits. Les rapports des députés sont parfois traduits en quelques langues pour être accessibles. Mais allô? Il y a quelqu'un? Mais voilà, c'est quand même la principale langue de travail. Ensuite, il y avait une autre question.
Est-ce qu'on approche tous les partis politiques, tous les groupes politiques, pardon?
Oui,
ça c'est une bonne question. Ça c'est une très bonne question. Alors. Donc, il y a, en fait, ça dépend des politiques en interne. Après, Anne, tu me diras si c'est ça, mais il y a effectivement une politique interne, par exemple, où certaines entités vont pas approcher tout ce qui est extrême gauche, extrême droite, sachant que cette approche-là, au vu des dernières années, donc des élections européennes, avec effectivement, par exemple, un grand nombre de sièges au Parlement européen pour l'extrême droite, par exemple, côté France, mais également d'autres nationalités, et puis les élections européennes à venir, où on voit quand même qu'il y a une montée aussi de la représentation de partis plus extrêmes au Parlement européen, qu'il y a peut-être une nécessité, donc ça c'est vraiment une question ouverte, hein, que ces politiques internes-là bougent, mais effectivement, on peut partir du principe qu'initialement, tout ce qui est extrême, en fait, ne va pas forcément être approché par la plupart des entités. Voilà.
Merci. Il y avait une demande aussi d'exemple de lobbying réussi et non réussi.
Alors, excusez-moi, j'ai perdu ma caméra, mais je pense que j'ai récupéré par contre ma connexion.
Alors, on t'entend très bien là.
Alors, super. Donc, je vais rapidement répondre, parce que j'ai vu Pauline a fait un effet. Donc, vous n'avez pas entendu ma. J'avais fait en fait cette réponse. En fait, Pauline a quasiment tout dit. Hein. C'est que le débat, c'est ils sont élus. Maintenant, on va approcher des groupes politiques par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Or, pour avoir des rapports, il faut avoir un certain niveau de représentativité et certains groupes politiques n'en ont pas, pour simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas assez de membres, ils n'ont pas fait de coalition suffisante. Et donc ces gens-là, dont on approche surtout les groupes politiques qui sont là pour les... Sur l'autre question qui est... victoire, défaite. Alors, pour ce qui est du MEDEF, je laisserai peut-être Anne ou Marie-Christine s'il y a un exemple. En tout cas, clairement, oui, on en a toujours des exemples de succès et de, on va dire, de défaite. Le plus gros succès, moi, que j'ai pu avoir, c'était de sauver une technologie que l'entreprise dans laquelle j'étais se voyait dépourvue, puisque ils étaient persuadés d'avoir fait un lobbying extrêmement en amont quand je suis arrivée à Bruxelles auprès des experts de la Commission. Et quand le texte est sorti, la réglementation. Et c'était la réglementation, c'était la technologie allemande qui prenait. Autant vous dire que ça a été un grand moment de solitude et que là, il a fallu remonter la pente. Et on a pu la remonter sur la base de vraiment positionner le problème au niveau des consommateurs, au niveau de la société, au niveau de plein de choses. Donc, on a réussi. Par contre, des défaites, là, ça prendrait trop longtemps si on voulait lister toutes. Donc, je propose qu'on ne s'étende pas. Mais il y en a pas mal. Je ne sais pas, Anne ou Marie-Christine, si vous avez des choses à rajouter?
Non, non. Un lobbying de réussi, c'est aussi... ça, c'est pas forcément que le texte, d'ailleurs, soit 100%, enfin, évidemment, ce serait mieux, mais qu'il favorise ou qu'il mette en avant certains... Enfin, c'est aussi de réussir à faire passer des idées ou des concepts ou des propositions nouvelles qui intègrent la proposition. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment complètement réussi? Dans un secteur, on voit plus l'impact. Enfin, quand c'est un peu plus sectoriel, je trouve, on voit plus effectivement directement l'impact. Quand c'est quelque chose qui concerne, je sais pas, toutes les conditions de travail ou le marché intérieur, c'est assez difficile. Et puis, par rapport à quoi on se situe? Est-ce que un lobbying réussi, c'est quand on part d'un texte qui nous est extrêmement défavorable, mais qu'on réussit à l'équilibrer? Ou est-ce que c'est avoir un texte qui valorise complètement les produits d'un secteur? Enfin, voilà. Donc, on a des victoires sur certains points. On a pas mal de défaites aussi. Mais en tous les cas, on met beaucoup d'énergie pour réussir à faire passer pour faire prendre en compte notre capacité et grandir notre capacité d'influence. Ça, c'est sûr.
Et si je peux juste me rajouter, parce qu'en fait, en t'écoutant, il y a un truc qui m'est venu et qui est peut-être une évidence, c'est qu'on peut aussi perdre sur un dossier. Et l'important, c'est de ne jamais avoir perdu sa crédibilité par rapport aux intervenants et par rapport aux parties prenantes. Et donc, souvent, ceux qui se battent jusqu'à la mort et qui se décrédibilisent sur un dossier, en fait, ils oublient qu'un dossier, c'est un instant T et qu'il y aura plein d'autres dossiers après. Et ça, je pense que j'en ai vu quelques-uns à Bruxelles qui se sont assez grandement décrédibilisés hein, sur un dossier en se jetant dans la bataille à corps perdu, parfois même en étant extrêmement peut-être limite sur ce qu'ils avançaient. Et ça, on le paye toujours. Donc, je pense que, comme l'a dit Anne, oui, ça dépend aussi du degré de texte et autres, mais ça dépend aussi de la crédibilité que vous avez gardée tout au long des débats. Et si je prends l'exemple, par exemple, du CE2, moi, je prends ça comme une grosse défaite parce qu'on a vraiment cru, en plus, grâce au Parlement, on allait y arriver avec quelques députés où on avait fait un peu basculer tout ça. Au final, le CE2 est passé, mais à aucun moment, il y a eu, de la part de l'équipe dans laquelle j'étais, où on s'est décrédibilisé, on était plutôt en alerte, en disant, vous ne savez pas ce que vous faites. Et quand je vois que dans les 6 derniers mois, il y a ce revirement total que personne n'a voulu entendre au moment donné, les gens me croisent aujourd'hui en me disant, mais vous aviez raison. Et ça, quelque part, c'est une défaite pour le dossier, c'est une victoire par rapport à demain. Et ça, il faut jamais l'oublier, c'est fondamental. Voilà. Alors, on a un peu perdu tout là sur. Est-ce que vous revoyez les slides ou pas du tout? Parce qu'on
Oui.
est.
Alors du coup
D'abord,
là
je
on a...
m'excuse.
Oui, c'est pas
Oui.
grave Marie-France, on est sur la partie conclusion. Bah, du
Oui,
coup voilà, tu
absolument.
peux partager ton écran si tu veux. Non, mais c'est
Alors, je pense
fini, il
que
n'y a plus de
Margot.
slides.
Alors, Margot, oui, il y
On
en a
n'a plus de
qu'un pour
slides, on est d'accord.
l'indication de transparence et le name and shame que Pauline voulait quand même signaler. Non, d'abord, je voulais m'excuser. J'espère quand même que le son et tout ça, à part ces dernières minutes, était bon, parce que malheureusement, on n'était pas au bureau et donc c'est toujours un peu compliqué. Donc, d'abord, je remercie aussi l'équipe, hein, parce que celles, bien évidemment, qui ont eu la gentillesse de présenter avec moi aujourd'hui, mais aussi toute l'équipe qui participe à chaque fois à l'élaboration, la réflexion de quoi on doit parler, comment on va le dire, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc, merci pour ça à tout le monde. La conclusion, c'est qu'on va essayer de nous mettre un slide où, aussi vraiment en quelques bullet points, il faut retenir un peu tout ce qu'on vient de vous dire, qui parfois vous a semblé peut-être d'une évidence crasse, mais qui c'est toujours compliqué. Et puis surtout, il y a des subtilités que j'espère que vous avez, qu'on a réussi à vous faire passer. On va les mettre tout ça. Et je le répète, à votre disposition pour répondre à d'autres questions qui pourraient vous venir. Des questions pragmatiques comme celles qui ont été posées dans le chat, je trouve ça super, parce qu'on montre bien que ça montre bien que c'est opérationnel ce boulot. Il est au jour le jour, on découvre même parfois des nouveaux contacts, on découvre des nouvelles façons d'obtenir une info. C'est vraiment toujours c'est un travail qui vit au quotidien, donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et la dernière chose, donc la revendication de transparence, Marie-Christine d'ailleurs tout à l'heure m'a fait un petit coucou, je ne sais pas si on l'a vu, mais donc ça a été dit hein, par rapport au cadre, Pauline l'a souligné, il y a de plus en plus du name and shame et besoin d'être plus transparent qu'eux. J'avoue que je pense qu'on gagnerait, le MEDEF gagnerait à peut-être être plus transparent sur ses actions. Donc on est en train de réfléchir à voir par rapport au site internet ou autre, comment on peut, comme certains de nos membres d'ailleurs, hein, si vous allez sur le site de Transdev par exemple, ils mettent toutes les positions qu'ils ont de manière totalement transparente. Donc il y a peut-être cette réflexion à mener tous ensemble pour voir quel lobbying on veut, sachant que jusqu'à présent, depuis que j'ai rejoint le MEDEF, je pense que c'est un lobbying qui est un lobbying crédible. Pleine d'expertise, et c'est ça surtout qu'il faut retenir. Voilà, et s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie
Il y a
tout
une
le monde et je
question,
remercie les
Marie-France,
participants. Ah, il y a une question,
qui est dans le
dites-moi.
chat, qui demande si on peut avoir un module très opérationnel sur comment trouver l'information et comment la lire. Je prends l'exemple du tableau Work in Progress, qui est quand même très complexe à première vue. Donc justement, c'est un petit peu ce qu'on va aborder dans le troisième session sur les cas pratiques. On ne pourra pas
Oui,
vous faire
alors
une formation à faire européenne, hein,
oui,
clairement,
non,
mais
oui, non, Pauline, quand
oui.
même, parce que la dernière session est plutôt, on rentre dans un cas pour expliquer plutôt les stratégies d'autres.
C'est vrai.
Mais là, je comprends que faire une session, et là, c'est plutôt à Céline que ça s'adresse, sachant que, bien évidemment, on sera ravis de la faire avec le soutien de l'Académie. Donc, ça serait carrément faire un petit listing sur les 2 dernières sessions qu'on a eues. On vous a montré quelques outils un peu arides, et ça serait de vous guider à travers ces outils. Alors, Pauline a peut-être raison, on peut peut-être essayer de le mettre dans la 3e session. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre l'enjeu. La 3e session, on reste sur ce qu'on avait dit, c'est-à-dire plutôt rentrer dans des cas pratiques de stratégie. Mais, si on peut le faire, on fera tout de suite aussi prise en main de certains outils. Ça, c'est la première chose. Et si on n'y arrive pas, Céline, OK pour une nouvelle session prise en main.
Oui,
Non, mais attends, mais ça, c'est pas la place.
c'est noté. C'est noté, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait une petite main qui s'était levée. Alors, on peut éventuellement prendre la question, mais très très rapidement parce qu'on est un petit peu pris par le temps.
Allez-y, la petite main levée, c'est qui?
C'est Miaï Shirka.
Alors,
Peut-être.
Yann Chirka, petite main levée. Une fois, deux fois.
Est-ce que vous m'entendez? Là, je pense que c'est...
Oui.
Oui, bonjour.
On entend.
Mihai Chirka de Transdev. Donc, déjà, merci beaucoup pour, pour cette session très, très claire et très, très bien. C'était plutôt une remarque qu'une question. Et je pense qu'on est passé très vite sur le lobbying niveau conseil. Et je pense que la valeur ajoutée de MEDEF, ça peut être à ce niveau-là. On est tous un peu limités par nos connaissances dans les autres pays, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas le même lobbying qu'on a à la Commission, au Parlement. Donc, il faut avoir un réseau qui est très bien développé dans les pays de l'Union. Et du coup, je pense que ça mériterait dans une prochaine séance de discuter comment MEDEF pourrait nous aider à relayer le message à travers les différents canaux nationaux et mieux toucher le conseil.
Merci beaucoup. On prend bonne note de cette proposition, de cette suggestion. Merci, monsieur.
Vous m'entendez? Vous m'entendez plus.
On t'entend, Marie-France. Peut-être pour un petit mot pour conclure. Oui.
Oui, non, je voulais juste dire à Mihai qu'en fait, ça a amené une réflexion. C'est quand je suis arrivée au MEDEF, j'ai trouvé justement que les relais sur d'autres RP, représentations permanentes, n'étaient pas faites. Il s'avère en fait que le MEDEF est avant tout un mouvement basé à Paris, d'entreprises de France, basé en France. Et les relais d'entreprises qui sont dans d'autres pays européens n'a pas été organisé. Et je me suis rapprochée de MEDEFI justement pour voir comment, via un réseau un peu plus d'entrepreneurs européens, on pourrait faire quelque chose. Mais c'est pas parce que le MEDEF ne veut pas le faire, c'est aussi parce que le MEDEF, quelque part, reste quand même un mouvement qui est majoritairement... en tout cas pour ce qui est du conseil sur du français. Mais la remarque est plus que pertinente et clairement, on y travaille.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.